Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour vous présenter ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu, les parties libyennes posent les bases d'un accord, le commissaire Z plaide pour des voies migratoires légales, l'OMS aide les pays européens à répondre aux besoins sanitaires de nombreux réfugiés et migrants, la résolution contre l'incitation au terrorisme fête ses 10 ans, des membres des forces armées de la RDC condamnés pour viol et meurtre. Nous reviendrons sur la 69e session de l'Assemblée Générale. Enfin, dans Fréquence Santé, la mortalité infantile recule. Les parties libyennes sont parvenues à Chirat, au Maroc, à un consensus concernant les principaux éléments d'un accord qui permettrait de mettre un terme à la crise politique et militaire que traverse le pays. C'est ce qu'a affirmé le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye. Selon Bernardino León, un texte final pourrait être signé d'ici le 20 septembre. Isabelle Dupuis.
C'est un jour très important pour les Libyens, a affirmé dimanche à l'issue des pourparlers Bernardino León, qui a indiqué qu'un texte qui, a-t-il espéré, serait consensuel, devait être distribué aux partis lundi. Suite à quoi, le Congrès général national doit quitter Skhirat pendant 48 heures, le temps de soumettre le texte et de proposer ses candidats pour le gouvernement d'unité nationale, les autres participants ayant déjà présenté les leurs. Bernardino León a salué la volonté politique, la souplesse et la générosité dont ont fait preuve les parti pour parvenir à un accord. Il a indiqué que les principaux points de divergence concernaient la formation d'un gouvernement d'unité nationale, la composition du Conseil d'État et certaines questions législatives. Selon le représentant spécial du secrétaire général, c'est la première fois en plus d'un an que la possibilité d'un accord avec l'ensemble des parties libyennes est à portée de main.
À l'ouverture de la 30e session du Conseil des droits de l'homme ce lundi à Genève, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a reconnu le droit des États à contrôler leurs frontières, mais a estimé qu'ils avaient l'obligation d'accueillir les réfugiés. Pour Zeid Raad al-Hussein, les États devraient s'appuyer sur le regain d'humanité provoqué par la photo émouvante du petit Syrien Aylan al-Kurdi, mort noyé le 2 septembre, alors qu'il tentait avec sa famille de rejoindre l'île grecque de Kos au large de la Turquie, Alpha Diallo.
It was the way he lay asleep.
Évoquant avec émotion l'image du petit Aylan Kurdi noyé en tentant de traverser la Méditerranée, le chef des droits de l'homme de l'ONU a ouvert la 30e session du Conseil des droits de l'homme par des mots chargés d'émotion sur le sort tragique de cet enfant syrien retrouvé mort sur une plage turque. Le haut-commissaire Zeid a confié ce lundi à Genève qu'au terme de la première année de son mandat, il se sentait à la fois épuisé et en colère, furieux surtout par l'inaction de la communauté internationale en Syrie malgré des violations des droits de l'homme dans ce pays. Ce n'est pas étonnant que les Syriens fassent partie du lot des réfugiés tentant de franchir les frontières européennes. À cet égard, Zeid Raad al-Hussein a lancé un appel à tous les États à adopter rapidement une politique migratoire globale. Il a ainsi imploré les dirigeants en Afrique, dans les Amériques, en Asie et dans le Pacifique comme en Europe à agir rapidement pour créer une gouvernance migratoire efficace fondée sur des principes. Le chef des droits de l'homme de l'ONU a d'ailleurs plaidé pour des canaux élargis de migration légale et de réinstallation, deux mesures qui pourraient prévenir les morts et couper court au trafic des êtres humains.
Et pour répondre à la crise des réfugiés, l'Organisation mondiale de la santé propose d'aider les États européens. Livraison de fournitures médicales, évaluation de la préparation nationale pour assister les personnes dans le besoin, formation du personnel au point d'entrée et mise à disposition de matériel d'information sont autant de fronts sur lesquels l'OMS s'active. Il y a aussi la sensibilisation des populations européennes contre les idées reçues sur les réfugiés. Sara Barragán-Montes, consultante en politique et sensibilisation à l'OMS.
Même si l'idée qu'il existe un lien entre les migrations et l'importation de maladies infectieuses est répandue, cette association n'est pas systématique. Les maladies transmissibles sont essentiellement liées à la pauvreté. Les réfugiés et migrants sont exposés principalement aux maladies infectieuses qui sont communes en Europe, sans lien avec les flux migratoires. Le risque des agents infectieux exotiques soit importé en Europe est extrêmement fiable. Et l'expérience a démontré que lorsque cela arrive, cela touche de voyageurs ordinaires, des touristes ou des travailleurs de la santé plutôt que des réfugiés ou des migrants.
10 ans après son adoption, la résolution 1624 du Conseil de sécurité criminalisant l'incitation au terrorisme reste pertinente, surtout à l'ère des médias et réseaux sociaux. C'est ce qu'affirme le directeur exécutif du comité du Conseil de sécurité de l'ONU contre le terrorisme à l'occasion de cet anniversaire marqué au siège de l'ONU ce lundi. Les précisions de Jean-Paul Laborde.
Je pense que c'était un précurseur, cette résolution, parce qu'elle touche un point sensible, c'est-à-dire la provocation et l'incitation à commettre des actes de terrorisme. Et elle permet d'incriminer ces actes de provocation et de support aux actes de terrorisme. Or, aujourd'hui, il est exact qu'avec tous les moyens des médias, des réseaux sociaux, l'incitation à commettre des actes, la provocation à commettre des actes de terrorisme est faite par là. Donc, si on utilise la résolution 1624, dans un bon sens, je pense qu'on peut aussi trouver un moyen de lutter contre ce phénomène. Mais ce n'est pas seulement une question d'incrimination. Je crois que la question fondamentale est aussi la coopération internationale pour lutter contre ce phénomène.
En RDC, le tribunal militaire de la garnison de Beni Boutembo a condamné 12 militaires à des peines allant de 5 à 20 ans de prison ferme pour viol et meurtre. La population de Kassindi Lubiriya et ses environs a salué cette décision de la justice contre ces militaires. Elle estime qu'elle pourra réduire les atrocités et autres formes de tracasserie commises sur les populations civiles par les forces de sécurité dans cette zone frontalière avec l'Ouganda. On retrouve à Goma Gabriel Wamenia de Radio Okapi.
La peine la plus forte est celle des 20 ans de prison ferme infligée au premier sergent Loto Yangbanga. Ce soldat radié de FARDC a été reconnu coupable des viols sur ses trois propres enfants à Beniville. Les populations venues nombreuses pendant les prononcés du verdict, exaspérées de colère, voulaient lyncher ces soldats qualifiés de sorciers ou de malades mentales. Les autres militaires condamnés pour viol et meurtre ont écopé des peines allant de 15 à 5 ans de prison, mais ils doivent aussi payer des dommages aux familles des victimes, ont précisé les sources de l'auditorat militaire. Par ailleurs, faute de preuves pour les griefs mis à leur charge, trois militaires, dont un officier, ont été acquittés par le tribunal. Notons que ces audiences ont été organisées avec l'appui financier et logistique de la MONUSCO, l'EPNID, les ONG Sofé Padi et la Ligue pour la solidarité congolaise.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Dernier jour de la 69e Assemblée générale des Nations Unies, présidée pendant une année par Sam Kutesa, ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda. Pour l'occasion, nous vous proposons un bilan avec Jean-Victor Nkolo, porte-parole du président de l'Assemblée générale, sur les accomplissements et difficultés rencontrés au cours de cette année. On l'écoute au micro de Tsige Chiferao.
Je crois que le président Sam Kutesa, le président de la 69e session, a réussi à faire de cette session un ensemble de résultats assez remarquables sur divers plans. D'abord le développement, une négociation assez ardue sur le financement, sur le développement, qui s'est terminée positivement par la conclusion d'un plan d'action d'Addis Abeba en juin dernier dans la capitale éthiopienne. Il y a aussi la question très importante du changement climatique. Et le président a bien préparé la route pour un bon sommet, je pense, du COP21, le sommet sur le changement climatique qui aura lieu à Paris. Autre point fort, la revitalisation de l'Assemblée générale des Nations Unies et puis la question de la réforme du Conseil de sécurité. Je voudrais aussi citer quelques faits majeurs qui ne sont pas moins importants. Par exemple, le lancement de la décennie pour les personnes d'ascendance africaine, mais aussi une réalisation très importante qui est l'installation sur le sol des Nations Unies à New York du mémorial permanent en souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique.
S'il y avait des points sur lesquels le président de l'Assemblée générale a eu du mal à se faire entendre, quels seraient-ils, selon vous ?
Je crois d'abord qu'il s'agit pour les États membres de trouver le moyen de donner leur opinion et de s'exprimer. L'Assemblée générale est l'organe délibératif par excellence des Nations Unies où chaque État compte, n'est-ce pas, avec une voix, contrairement à d'autres organes qui donnent à certains États le droit de veto. Or, le président de l'Assemblée générale, ce qu'il a réussi à faire, c'est en réalité permettre que cette délibération, que ce processus délibératif aille de l'avant, soit dynamique et fasse progresser l'ONU afin que les Nations Unies continuent à mieux résoudre les questions qui se posent sur le plan global, sur le plan régional et sur le plan sous-régional.
Vous parlez de la représentation équitable qui, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, est encore en débat. Donc ça veut dire que c'est encore un problème.
Tout à fait. En tant que président de l'Assemblée générale, mais aussi en tant que fils de l'Afrique, ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, et quelqu'un qui a participé, n'est-ce pas, au processus qui a donné à l'Afrique sa position très centrale et très importante sur la question de la réforme du Conseil de sécurité, évidemment, le président de l'Assemblée générale, M. Sam Kutesa, a à cœur cette question de la représentation. C'est très important. Les Nations Unies ont changé. Il n'a cessé de répéter que quand les Nations Unies ont été formées, eh bien, beaucoup de pays africains n'étaient même pas présents. Or, le monde a changé, la face du monde a changé, et je pense qu'il retire de cela peut-être un petit regret de ne pas avoir avancé aussi loin qu'il aurait pu. Mais je pense qu'il a quand même réussi à faire que cette question fasse du progrès, c'est-à-dire qu'il y a eu une discussion franche qui a avancé avec cette question d'un texte sur lequel les États membres baseraient dorénavant leurs opinions.
Fréquence santé, santé, santé.
La mortalité infantile dans le monde a été divisée par deux en un quart de siècle, selon un récent rapport de l'UNICEF, de l'OMS et de la Banque mondiale. Le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans est ainsi tombé à 5,9 millions cette année, contre 12,7 millions en 1990. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a joint Flavia Bustreo, directrice générale adjointe à l'OMS pour la santé de la famille, des femmes et des enfants.
C'est une chute vraiment impressionnante, c'est plus de 50% des de mortalité infanto-juvénile dans le monde. On a vu des investissements très importants sur la santé de la femme et de l'enfant à niveau de beaucoup de pays, surtout des pays de l'Afrique. Et on a vu surtout les investissements dans les systèmes de santé pour les opérateurs de santé et aussi des investissements sur l'éducation de la femme. Ce sont été vraiment des investissements très importants sur l'infrastructure et aussi des investissements sur la possibilité d'avoir couverture sanitaire. Donc, cet investissement qui a été très, très important. Dans les pays où cet investissement a été fait, on a vu vraiment la réduction de cette mortalité.
Alors, comment expliquer concrètement ces chiffres? Quand on passe de 12,7 millions de décès en 90 jusqu'à 5,9 millions cette année, comment analysez-vous ces chiffres de façon très concrète?
Alors, d'abord, ce sont des chiffres en agrégat. Okay? Alors, c'est beaucoup plus important de voir pays pour pays, parce que là, c'est vraiment où la réalité ça passe. Et aussi, c'est très important de voir si le pays a obtenu la réduction de mortalité dans tous les différents groupes de population, ou bien si cette réduction c'est surtout dans la ville ou dans la partie des sociétés plus élevées. Par exemple, il y a des pays comme le Brésil, où la réduction s'est obtenue dans tous les secteurs. En fait, la réduction plus élevée, c'est dans les secteurs plus pauvres. Parce que le Brésil, il a eu une stratégie vraiment mirée à la réduction de pauvreté et aussi mirée à donner à cette partie de population l'accès à les soins de santé. Par contre, il y a d'autres pays où on a la réduction, mais c'est la réduction, c'est surtout de la partie plus riche de la population.
Alors, malgré ces résultats encourageants, tout de même, 16 000 enfants de moins de 5 ans continuent à mourir dans le monde. Et est-ce que, selon que l'on soit né à Milan ou à Conakry, on a plus de chances de mourir ou de décéder?
C'est comme une loterie. Donc, vous êtes né à Milan, vous avez une chance. Si vous êtes né à Conakry, vous avez une autre chance. Je pense vraiment que c'est le défi pour les but de Sustainable Development Goals, ça va être vraiment d'arriver à terminer, à prévenir cette mortalité. C'est jouable, The Country l'a fait. Vraiment, dans les prochaines 15 années, je pense, cet défi, s'il y a la volonté politique, s'il y a les investissements, on peut arriver. Donc, j'espère vraiment que quand tous les chefs d'État sont là à New York, ils vont se compromettre très fortement pour arriver à avoir un monde où on n'a pas cette inégalité, cette loterie, cette chance d'être né à Milan ou d'être né à Guinée-Conakry.
Ça veut dire que c'est toujours l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud qui restent vos régions de préoccupation?
Ça reste toujours les deux régions avec la mortalité plus élevée, malgré les progrès. Parce qu'il a fait des progrès vraiment exceptionnels, mais malgré les progrès, ça reste toujours les deux régions plus importantes.
Dernière question, des pays comme l'Éthiopie, l'Érythrée, le Libéria, qui ont atteint les objectifs, comment l'expliquez-vous alors que les gens pensent que c'est des pays qui ne peuvent pas les atteindre? ces objectifs du millénaire.
Il a fait des investissements vraiment très mirés. Et il a aussi soutenu son investissement dans les dernières 20 ans. Ils ont été des investissements, par exemple, dans le cas de l'Éthiopie, mirés à renforcer les systèmes à niveau communautaire avec ce type de figure Health Extension Worker, une figure de communauté qui donne les soins à la mère dans la grossesse. Et aussi, il a fait des investissements très, très importants pour les capacités de gérer tout le système, renforcer le système de données, la redevabilité. Donc ça, c'était un rêve 20 ans avant, mais maintenant, il est arrivé.
Et c'est avec Flavia Brustreo que se referme ce journal de la radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.